dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Fidèles auditrices et auditeurs de VOA Afrique, bienvenue à toutes et à tous dans l'Amérique et vous, Eric Manila Kiza. Avec vous à la présentation, Lionel Lunanila Gahima assure la mise en œuvre. La planète a dépassé jeudi le cap des 5 millions de cas de nouveau coronavirus, déclaré avec plus de 329 000 décès. Malgré que le bilan ne cesse de s'alourdir, l'heure de la fin du confinement a déjà sonné et on rouvre progressivement. Plusieurs pays ont donc franchi une nouvelle étape dans le déconfinement pour relancer des économies asphyxiées. Ici aux États-Unis, le déconfinement a déjà commencé dans plusieurs États et malgré la réticence de certains gouverneurs et des spécialistes en santé publique. Dites-nous comment se passe le déconfinement chez vous et la manière dont vous le vivez personnellement autour de vous. Nous aurons trois invités pour faire le tour d'horizon. Encore une fois, bienvenue. Ce soir, l'Amérique et vous accueillent Clémentine Huet, qui se trouve dans la ville des Lumières. Bonsoir, Madame Huet.
Bonsoir, Eric.
Henri-Désiré Nzouzi se trouve dans la capitale européenne. Bonsoir, Henri.
Oui, bonsoir, Eric. Bonsoir à tous nos auditeurs.
Ici, aux États-Unis, nous retrouvons l'enfant de la terre des Burnies, Nyaka Lagoké. Bonsoir, Nyaka.
Bonsoir, Eric.
Évidemment, pour éclairer cette émission, on a besoin un peu de lumière, n'est-ce pas, Clémentine? Je m'adresse à vous, votre expérience du déconfinement.
Ah ben, mon expérience du déconfinement se passe plutôt bien. Je suis à Paris, dans le 18e arrondissement. Le déconfinement a eu lieu le 11 mai. On s'est bien rendu compte que c'était le déconfinement et que les gens sortaient beaucoup plus. Le soleil d'ailleurs a pointé le bout de son nez et ça, on l'attendait depuis un petit bout de temps. Et oui, on voit bien que les gens sortent beaucoup. Il y a des bars qui sont ouverts avec des bières à emporter. Il y a beaucoup de gens dans les rues. La vie reprend et le déconfinement, moi je le vis plutôt bien. Parce que je suis dans un quartier animé, donc on continue un peu avec les distances de sécurité, mais c'est vrai que on est quand même content de pouvoir ressortir.
Comment ça se passe à Bruxelles, Henri? Et surtout, dans le monde de la diaspora, vous êtes très proche.
Oui, tout à fait. Alors, le gouvernement belge a opté pour un déconfinement progressif en quatre phases. La première phase a eu lieu le 4 mai dernier. La seconde phase, le 18 mai, c'est-à-dire il y a de cela trois jours. La prochaine phase devrait coïncider en principe avec la réouverture de ce que l'on appelle communément les établissements Horeca, donc hôtels, restaurations, cafés. Mais néanmoins, évidemment, les experts restent bien évidemment attentifs à ce qu'il n'y ait pas de risque de seconde vague. Mais pour le reste, il n'y a aucune limitation de distance, contrairement à la France. Je pars sous le contrôle de Clémentine, où ici, évidemment, vous me direz 100 km en Belgique, vous êtes carrément déjà à la mer du Nord. Mais ici, il n'y a aucune limitation en termes de déplacement. Les gens peuvent aller où ils veulent, dans les transports en commun, dans les trains également. Le port du masque est obligatoire, mais vraiment obligatoire. Des amendes de 250 euros sont prévues pour ceux qui refuseraient de se plier à ces mesures d'urgence. Quant à la diaspora, vous venez de m'interpeller, elle poursuit calmement, je dirais, son processus de déconfinement. Pendant la période de confinement, elle a essayé de s'organiser en organisant notamment des lives et des webinaires pour essayer justement de préserver ce lien social. Car il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. En termes de rapport entre individus, beaucoup de choses commencent déjà à changer.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de prendre une tasse de thé avec le roi, Henri?
Je n'ai pas eu ce privilège, même si le colloque singulier fait partie, je dirais, de mes vœux les plus chers. J'attends que le palais me fasse signe.
Virtuellement, c'est possible. Monsieur Nyaka, Que peut-on savoir des États-Unis, le pays le plus touché? Et surtout, est-ce que vous avez eu votre à checker?
Non, c'est pas. Je suis actuellement en Pennsylvanie. Je suis à Lincoln University. Et l'école a été fermée. Et l'année scolaire a pris fin depuis le 28 avril. Mais comme j'ai une petite place ici et où je reste pendant l'année scolaire, et donc je suis pas encore retourné à Washington DC où je suis basé. Et donc tout est tranquille ici. Et donc le port du masque est obligatoire dans l'État de Pennsylvanie. Donc quand je sors, je suis obligé de porter le masque. Et puis la distance de comment on dit ça en anglais 6 feet, donc il faut respecter partout où on passe. Et donc la plupart des gens travaillent à partir de la maison. Et donc je crois que on avait pensé que la mise en quarantaine allait prendre fin, mais cela continue jusqu'au 4 juin. Les gens sont obligés de porter les masques. Voilà, voici un peu ce qui se passe dans l'espace dans lequel je suis. Et comme vous le savez, les choses sont différentes d'un État à un État aux États-Unis. Donc voilà ce que je peux dire pour répondre à la question.
Vous avez pu trouver votre attaqué?
Non, actuellement, je ne mange pas de la checké. Ça fait un bon moment que je ne mange pas de la checké, même avant le COVID. Mais depuis que le COVID est arrivé, nous tous, nous nous ajustons pour ne pas consommer beaucoup d'huile, pour consommer de la salade, des fruits, boire du thé chaud. Donc, je ne mange pas de la checké actuellement.
Oui, Yaka, aux États-Unis, on sait que la communauté noire est la plus touchée. Est-ce que dans ce déconfinement progressif, est-ce que on voit les Noirs sortir, par exemple, ou il y a toujours cette peur qui perturbe leur quotidien?
Bon, comme les États-Unis, c'est quand même très grand et très vaste, et donc les gens ont leurs habitudes. Sur la base de ce que j'entends, à partir des gens qui sont à Washington DC, non, il y en a qui commencent à sortir progressivement et voilà, qui font ce qu'ils ont à faire. Et puis aussi, la réalité, c'est que les gens sont fatigués de ce confinement et on ne sait pas quand ça va prendre fin. Bon, à New York, je crois que comme c'est une ville qui est très touchée, je crois que les gens font beaucoup plus attention. Donc voilà ce que je pourrais dire. Mais sinon, il y a quand même des communautés où les gens ont envie de se libérer et les gens ont envie d'avoir des bouffées d'oxygène, quoi.
Clémentine, à Paris, on dirait que tout est normal, n'est-ce pas? Les gens sont très contents.
Les gens sont contents de sortir. Bon, déjà, en tant que Parisien, on est toujours contents de sortir. Je me rends compte que oui, effectivement, il y a beaucoup de monde dans les rues, partout. Malheureusement, le quartier qui... Je vois le plus de gens à l'extérieur que d'autres me disent qu'ils sont allés faire des tours un peu ailleurs et qu'il y a toujours peu de monde.
Oui, vous avez visité récemment les États-Unis. Est-ce que c'est un pays qui vous manque ou avec le contexte actuel, vous pensez que peut-être Paris, c'est mieux pour le moment?
Ah bah alors vous savez quoi, j'aime énormément les États-Unis. C'est vrai que c'est un pays qui est un pays de cœur. J'y suis allée il y a très peu de temps et c'était vraiment incroyable, de grandes aventures. Et bon, c'est vrai, j'aurais bien aimé être confinée avec ma maman qui est aux États-Unis, qui malheureusement a passé tout le confinement là-bas et que j'aimerais pouvoir voir très vite. Mais l'Amérique me manque et je sais que la première fois que je pourrai la revoir, ce sera en août parce qu'elle a pu réussir à prendre un billet pour venir me voir et donc du coup c'est Ça me remplit de joie.
Paris, pas de traitement curatif, pas de vaccin, forcer le retour à la vie normale, n'est-ce pas un pari risqué?
Bon, vous savez, pari risqué, je ne sais pas. Vous avez les pays qui ont fait le pari de l'immunité collective. Je pense notamment aux Pays-Bas et à la Suède. Ça ne signifie pas qu'ils s'en sont sortis mieux. Néanmoins, on peut quand même relativiser les choses en ne cédant pas déjà à la psychose ni à la panique. Parce que vous savez, ce qui est assez particulier, c'est que ces mesures de distanciation physique et non plus sociale, parce que ça a une connotation un peu négative, perdent tout leur sens lorsque vous entrez dans un magasin, par exemple, où là, pour le coup, vous êtes carrément serré contre des personnes qui sont près de vous avec leur caddie. C'est-à-dire que ce que vous prenez comme précaution en sortant, vous le perdez dès que vous entrez dans un espace relativement clos. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir veiller à ce que, en termes de sécurité, vous soyez protégés, notamment dans les transports en commun et dans certains espaces publics. Je peux vous dire que à Bruxelles, par exemple, à la gare du Midi, même si vous ne prenez pas le train, vous êtes obligé de porter le masque. Il en va de même des établissements hospitaliers, de certaines administrations ou de certains établissements qui se réservent le droit effectivement d'imposer cela. Tout ça pour effectivement conjurer le risque de cette fameuse deuxième vague que beaucoup craignent, mais il y a néanmoins de bonnes raisons d'être optimiste parce que selon les chiffres dont nous disposons, et je pense que là aussi Clémentine pourra le confirmer au niveau de la France, il y a quand même une baisse significative en termes de décès et d'hospitalisation, ce qui va dans le bon sens.
Oui, complètement.
Vous écoutez l'Amérique et vous, une courte pause avant d'aborder les commentaires Facebook émis par nos auditeurs.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Retour avec vous, Eric Manilakouza dans l'Amérique. Comment vous vivez le déconfinement chez vous? Ndakjiman à Salomon, il dit seulement la misère, pas de déplacement à l'intérieur du pays, donc pas de mouvement. Mahamoudou Gen, le déconfinement au Burkina Faso, avec en première position l'ouverture, la réouverture du grand marché de la capitale, puis des yards, dites petits marchés. Suivra ensuite les bras, les maquis et les postes de péage des villes mises en quarantaine. Le report du couvre-feu de 21h à 5h du matin, qui était au préalable de 19h à 4h30 du matin. Bientôt, c'est prévu l'ouverture des écoles, lycées, universités. C'est au 1er juin. En ce qui concerne les frontières terrestres, maritimes et aériennes, aucune date n'est prévue. On passe des moments horribles dans ces périodes de confinement. Au Congo, Brazzaville, nous retrouvons Gerol Obambi qui dit « Les gens continuent de douter de l'existence du virus, donc du coup, le déconfinement pourrait se présenter comme un moyen de contamination à grande échelle de la population puisque les gens ne respectent pas les mesures de prévention contre le Covid-19. On craint une contamination de masse dans le pays, notamment à Brazzaville et à Pointe-Noire. » On va finir avec Oratorius qui dit le bilan actuel des nouveaux cas en RDC, c'est 1835, cas confirmé officiellement. Mais jusque-là, le gouvernement n'a pas perdu le courage pour rouvrir et autoriser les vols internationaux. Voilà ce que nous disent les auditeurs Nyaka. Vous connaissez le continent où la situation est relativement mieux par rapport à d'autres territoires dans le monde.
Oui, quand on a vu les premières nouvelles sur le Covid, on a entendu les prédictions catastrophiques de certaines communautés dans le monde occidental, même avec l'OMS qui est en train de prédire des millions de cas en Afrique et des centaines de milliers de morts. Bon, déjà, j'avais trouvé ça un peu bizarre. Et dans la mesure où nous, en Afrique, nous vivons avec le paludisme et il y a un certain nombre de maladies. Et puis bon, sur la base de ce qu'on sait, le Covid-2, c'est-à-dire le virus, a du mal à prospérer dans un contexte de température très chaude. Et donc avec le soleil que nous avons, comme peut-être que les scientifiques devraient le chercher à le prouver, je pense que la constitution des Africains en général est assez solide par rapport à ce virus-là. Nous avons des grippes et puis bon, très peu d'Africains meurent des grippes en général. Alors donc, voilà un peu ce que je pensais. Et puis bon, cela est confirmé. Bien que les Africains vivent dans des cours communes et que les transports publics soient surpeuplés, et bien malgré toutes ces choses-là, et jusqu'à preuve du contraire, le Covid est venu démontrer que les Africains ne sont pas les seuls à être ceux qui meurent de tragédie, mais que cela peut arriver aussi aux Occidentaux, que cela peut arriver aux Asiatiques.
Henri ?
Oui.
Bref commentaire sur les propos de nos auditeurs.
Disons que les statistiques en Afrique défient effectivement toute logique, hein, avec moins de 100 000 cas, moins de 3 000 morts. C'est un vrai mystère. Alors, au-delà évidemment de ces chiffres, il y a lieu tout de même de rester vigilant, parce que il faut quand même rappeler que le système sanitaire reste globalement défaillant sur le continent, et que donc l'accalmie à laquelle nous assistons pour l'instant pourrait très bien se retourner contre nous, je dirais, dans les prochains mois. Donc je dis attention. Ce qu'il faut mettre au crédit des gouvernements africains, même s'il leur a été reproché de faire du copier-coller par rapport aux mesures de confinement prise en Europe, c'est d'avoir réagi assez rapidement, et cela a été reconnu d'ailleurs par notamment le secrétaire général des Nations Unies, même si ce dernier avait estimé que l'Afrique allait probablement avoir des centaines de milliers de morts. Enfin bon, là aussi, tous les pronostics ont été défiés, mais cela ne doit pas, je dirais, empêcher les responsables de prendre leurs responsabilités, c'est le moins que l'on puisse dire, mais d'être extrêmement vigilant, en multipliant notamment les initiatives en vue de mutualiser les efforts des uns et des autres. On voit que dans certains pays comme le Kenya, comme Madagascar, en Afrique du Sud maintenant, et même au Sénégal et en Côte d'Ivoire, il y a des recherches qui sont menées pour pouvoir trouver ne serait-ce qu'un remède préventif. C'est une très bonne chose que de privilégier le local content, parce que cette crise a ceci de particulier qu'elle aura contraint finalement tout le monde, qui pour une fois était logé à la même enseigne, hein, américain, français, européen, asiatique, africain, à prendre leurs responsabilités et à trouver des solutions à leurs problèmes.
Clémentine, vous apprenez quelque chose dans nos auditeurs?
Ah mais complètement, mais c'est peut-être le moment de se rendre compte que l'Occident pouvait vivre ce que l'Afrique vit depuis toujours. Et donc du coup c'est peut-être un moment pour se remettre en question sur pas mal de choses, mais parce qu'il y a encore aussi quelque chose qui subsiste, et pourtant ça, on a trouvé le remède, c'est la malnutrition et la faim. Et finalement, il serait peut-être temps de trouver des solutions à tous ces problèmes-là. J'apprends des choses.
Vous suivez l'Amérique et vous, Eric Manirakiza à la présentation. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a rappelé mercredi que la pandémie était loin d'être contenue. Le déconfinement a commencé. Henri, sur quoi peut-on fonder l'optimisme? Vous avez parlé de l'espoir tout à l'heure.
Oui, parce que effectivement, cette pandémie a effectivement vocation à disparaître. Il y a des initiatives qui ont été prises, et c'est fort heureusement d'ailleurs, par les pouvoirs publics dans les différents pays pour protéger, je dirais, les populations. Et puis il y a aussi, je pense, une prise de conscience collective sur la manière la plus efficace d'éradiquer le problème. Déjà au niveau de l'Afrique, qui au tout début avait été pointée du doigt et qui continue d'ailleurs à être diabolisée, parce qu'on entend les prophètes de malheur, je dirais, prédire l'Armageddon et l'Apocalypse. À ce niveau-là, tout le monde s'est trompé, en ce compris l'OMS. Mais comme je viens de le rappeler il y a de cela quelques instants, il va falloir changer de paradigme. D'abord, faire en sorte que les secteurs qui sont généralement considérés comme des parents pauvres dans les pays africains, comme la santé, comme la justice et l'éducation, puissent être remis au devant des priorités, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que les pratiques en termes de gouvernance doivent aussi évoluer, parce que ce que cette crise a mis en lumière, pas seulement en Occident en termes de difficultés à gérer le problème, mais en Afrique, c'est la nécessité véritablement de remettre les choses à plat pour repartir sur des bases beaucoup plus saines.
Clémentine, qui vit d'espoir, meurt de désir.
Ah, on est bien d'accord, tout à fait. Eh bien, effectivement, nous, on est dans le désir de revivre, le désir de reprendre notre vie, de reprendre nos activités, mais nos activités personnelles, mais ce qui nous font vivre notre passion. Parce que c'est ça aussi que le confinement a apporté, je pense, c'est un retour sur soi-même, aller à l'essentiel et aller vers ce qui nous tient vraiment à cœur.
Yaka, je sais que vous allez nous parler de la foi, ce qui a été, disons, le maître mot des Africains. Ils vivent toujours par la foi.
Non, bon, je ne connais pas le nom du correspondant qui parle depuis la Belgique, qui a dit de très bonnes choses, et Clémentine aussi. Mais la réalité, c'est que je ne crois pas que le Covid puisse amener les gouvernants africains en général à se remettre en cause par rapport à leur politique sanitaire. C'est plutôt les Occidentaux qui doivent revoir leur conception de la politique sanitaire. En Afrique, on devrait le faire, de façon, comme on dit ça en anglais, out of good faith. Mais parce que d'autres dirigeants ont d'autres priorités, et donc on a vu un peu comment est-ce qu'ils réagissent depuis toujours. Mais la réalité, c'est que pour moi, ce qui est véritablement important, c'est la chute du néolibéralisme. Et on a vu avec tous les concepts que nous avons, tous les principes ou les préceptes par rapport à la délocalisation des unités de production. Et donc l'Europe est allée jusqu'à confier son destin sanitaire à la Chine, au point que même pour avoir les masques, il fallait les attendre de la Chine ou bien les kits de dépistage. Pour moi, c'était une aberration. Et celui qui a fait le procès du néolibéralisme, le plus grand procès du néolibéralisme pendant cette crise-là, c'est le président français Emmanuel Macron, qui a estimé que tout ne peut pas dépendre du marché. Donc voici les éléments sur lesquels on peut réfléchir. Et pour nous, les Africains, au-delà de la foi dont tu parles, pour nous, les Africains, il est temps de proposer une nouvelle valeur philosophique loin du capitalisme, loin du socialisme, mais qui s'appuie sur le collectivisme africain que nous appelons la philosophie Ubuntu. C'est autour de cela qu'il faut redéfinir le destin politique et économique de l'Afrique. Pour nous, voici ce que nous voyons dans cette crise du Covid-19.
Pensez-vous que le monde sera toujours le même qu'avant le virus, Niaka?
D'abord, il y aura quand même un léger changement. Et c'est ce que je suis en train de dire. Il y aura un léger changement parce que des gens comme nous qui parlions depuis longtemps des philosophies alternatives, et en tant qu'Africains, on parle de la philosophie Ubuntu, aujourd'hui, nous pouvons en parler et nous en parlons. J'ai vu des philosophes belges, des philosophes français, j'ai lu des articles aux États-Unis dans le monde occidental où il y a eu de nombreuses personnes, de grandes personnes qui ont dit que le temps est venu de ne plus concevoir l'avenir de l'humanité selon le prisme du capitalisme, mais qu'il fallait des valeurs qui mettent l'accent sur l'importance de l'homme et sur des valeurs comme la solidarité. Alors je pense que le coronavirus crée l'espace pour que des gens qui pensaient à des voies alternatives puissent mieux s'organiser afin qu'on puisse imprimer une nouvelle dynamique à l'humanité. Et donc ça, c'est une possibilité. Je ne dis pas que ça va se passer ainsi, parce que ceux qui ont les pouvoirs d'argent, ceux qui contrôlent les industries pharmaceutiques, qui contrôlent les médias, tous ceux qui contrôlent beaucoup d'institutions dans le monde feront tout pour dire qu'il faut juste faire un petit réglage sur le capitalisme, mais que c'est la seule idéologie qui devrait exister encore pendant une centaine d'années.
Henri, est-ce que le monde sera toujours le même qu'avant le virus?
Non, il sera pas du tout le même, il sera différent. J'aimerais quand même néanmoins nuancer juste les propos qui viennent d'être tenus en disant qu'au lendemain...
Très rapidement, oui.
Au lendemain de cette pandémie, la priorité ne sera pas de réfléchir sur telle ou telle philosophie alternative. La priorité sera de panser les plaies, de remettre l'économie sur les rails et de créer les conditions du développement, du plein emploi. Ce n'est qu'après que les gens seront en capacité de réfléchir. Premier élément. Deuxième élément et deuxième condition, c'est que les Africains doivent être unis avec un continent qui a tant de disparités en termes de valeurs, en termes de population, en termes de situation, je suis malheureusement contraint de vous dire que l'on pourrait assister à ce dont on a assisté en Europe au tout début de la pandémie, c'est-à-dire chacun pour soi, Dieu pour tous.
Clémentine ?
Je suis tout à fait d'accord. Non, mais il faut que le monde change. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même arrivé à un point de non-retour dans lequel le monde doit changer, le monde doit évoluer de toutes les manières qu'elles soient, c'est-à-dire que ce soit au niveau environnemental, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit dans tous les niveaux, il faut que ce monde change. Il est temps. Je pense qu'on est arrivé à un point où il faut que ça se fasse et je pense qu'on est en bonne voie. J'ai foi en l'avenir, j'ai foi en l'humanité, j'ai foi en toutes ces belles personnes qui veulent changer le monde. Et je pense que oui, le monde doit changer.
Yaka, je vous accorde 15 secondes.
Oh oui, non, quand je voulais juste répondre à Henri, si on est d'accord, oui, il faut penser les plaies, oui, il faut rebâtir les économies, mais cela doit se faire par rapport à un prisme qui a amené l'humanité au bord du cataclysme, mais autour des valeurs alternatives de solidarité. Et nous, en Afrique, on appelle ça la philosophie Ubuntu, qui va naturellement être le ciment de l'unité que dont Henri parle, qui ne voit pas en Afrique.
C'est la fin de l'Amérique et vous, consacrée sur le déconfinement ici aux États-Unis et ailleurs. Merci à mes invités, Clémentine Huette depuis Paris,
Merci à toi, merci à vous tous d'avoir écouté.
Henri Désiré Nzouzi, depuis Bruxelles. Merci Henri.
Merci infiniment, bonne soirée.
Chez l'oncle Sam, nous étions avec Nyaka Lagoke. Nyaka, grand merci.
Merci pour l'opportunité, merci à Henri, merci à Clémentine et puis à, vraiment merci pour l'émission, c'est un plaisir.
La mise en onde était assurée par Lionel Mounamiragaïma. Eric Manirakiza vous souhaite une excellente soirée. Et n'oubliez pas, chaque jour est une vie. À très bientôt.